Chapitre 11. Bayerisch Eisenstein. Vendredi 19 décembre 1980. Tony Harrod et Maria Chen prirent leur petit déjeuner dans la minuscule salle à manger de l'hôtel. Ils descendirent dès 7 heures, mais les amateurs de ski de fond étaient déjà partis explorer les pistes. Le feu crépitait dans la cheminée, et Harold apercevait le blanc de la neige et le bleu du ciel par la petite fenêtre du mur sud. « Pensez-vous qu'il sera là ?» demanda Maria Chen alors qu'ils finissaient leur café. Harold haussa les épaules. « Comment le saurais-je, bordel ?» La veille, il était persuadé que Willy ne se trouverait pas dans la maison de ses ancêtres, que le vieux producteur était bien mort lors de l'accident d'avion. Willy lui avait appris l'existence de cette propriété 5 ans plus tôt. Ce jour-là, Harold était ivre. Willy, de retour d'un voyage de 3 semaines en Europe, s'était soudain exclamé les larmes aux yeux « Qui a dit qu'on ne pouvait jamais revenir chez soi, hein, Tony? Qui a dit ça ?» Puis il lui avait décrit la maison de sa mère en Allemagne du Sud. C'était sûrement par erreur qu'il avait mentionné le nom de la ville la plus proche. Harold avait décidé de faire le voyage par acquis de conscience. Mais aujourd'hui, sous la lumière crue du matin, assis en face de Maria Chen qui avait glissé le Browning 9 mm dans son sac à main, l'improbable ne lui semblait que trop possible. « Et si Tom et Jensen étaient là ?» demanda Maria Chen. Elle portait un pantalon en velours bleu, des chaussettes montantes, un pullover à col roulé rose et un blouson de ski rose et bleu qui lui avait coûté 600 dollars. Elle s'était faite une queue de cheval pour retenir ses cheveux noirs et semblait toute fraîche en dépit de son maquillage. « Elle ressemblait, » pensa Harold, « à une jeune girl scout eurasienne se préparant à aller skier avec des amis. » « Si vous devez les éliminer, occupez-vous d'abord de Tom, » lui dit-il. « Willy a tendance à utiliser Reynolds plutôt que le nègre. Mais Luard est fort, très fort. Assurez-vous de ne pas le rater. Si les choses se gâtent, c'est Willy qu'il faudra éliminer en premier, d'une balle dans la tête. Une fois qu'il sera hors course, Reynolds et Luard ne représenteront plus aucun danger. » Ils sont si bien conditionnés qu'ils ne peuvent même pas aller pisser sans l'autorisation de Willy. Maria Chen scia et regarda autour d'elle. Les 4 autres tables étaient occupées par des couples d'Allemands riant et parlant avec animation. Personne ne semblait avoir entendu les instructions que Harold venait de formuler à voix basse. Harold fit signe à la serveuse de leur apporter un peu plus de café, sirota le breuvage noir et fronça les sourcils. Il ne savait pas si Maria Chen était capable de tuer quelqu'un sur ses instructions. Il supposait qu'elle le ferait. Elle n'avait jamais désobéi à ses ordres, mais il regretta brièvement qu'elle soit neutre. D'un autre côté, si elle n'avait pas été neutre, Willy n'aurait eu aucune peine à l'utiliser contre lui. Harold ne se faisait aucune illusion sur le talent du vieux Bosch. Le fait que Willy ait pu avoir en permanence 2 pions près de lui montrait l'étendue de son pouvoir. Harold avait pensé que le talent de Willy s'était estompé, sous l'effet de l'âge, de la drogue et de la débauche. Mais, vu les récents événements, il aurait été stupide et dangereux de continuer à agir d'après cette hypothèse. Harold secoua la tête. Bon sang. Ce foutu Island Club le tenait déjà par les couilles. Harold n'avait aucune intention de s'intéresser au sort de la vieille de Charleston. Il n'avait aucune envie de contrarier quelqu'un qui avait passé 50 ans à jouer à ce foutu petit jeu avec Willy Borden, ou Von Borchert, si c'était là son nom. Et qu'allaient faire Barent et sa clique s'ils apprenaient que Willy était encore en vie? S'il était encore en vie! Harold se rappela sa réaction lorsqu'il avait appris la mort de Willy 6 jours plus tôt. Il avait d'abord été ennuyé. Qu'allaient devenir tous les projets que Willy avait lancés? Qu'allait devenir son fric? Puis il avait ressenti du soulagement. Ce vieux fils de pute était enfin mort. Harold avait passé des années à redouter que le vieil homme apprenne l'existence de l'Island Club apprennent que Tony l'espionnait. J'ai toujours pensé que le paradis était une île merveilleuse, où l'on pouvait chasser tout son saoul. Pas vrai, Tony? Willy avait-il vraiment dit ça sur la cassette vidéo? Harold se rappela avoir eu l'impression de plonger dans des eaux glacées lorsque l'image de Willy avait prononcé ces mots. Mais il était impossible que Willy ait su. De plus, cette cassette avait été enregistrée avant l'accident. Willy était mort. Sinon, il le serait bientôt, pensa Harold. Prête? Dit-il. Maria Chen s'essuya les lèvres avec une serviette en papier et hocha la tête. « Alors allons-y, » dit Tony Harold. « Alors c'est ça, la Tchécoslovaquie ?» dit Harold. Comme il sortait de la ville, il avait aperçu derrière la gare une barrière, un petit bâtiment blanc et plusieurs gardes portant des uniformes verts et des casques de forme bizarre. Un petit panneau routier indiquait « Übergangstelle ». « C'est ça, » acquiesça Maria Chen. « Foutrement intéressant. » Il s'engagea sur la route tortueuse, ignorant les panneaux indiquant la direction de la Grosse Harbour et de la Kleine Harbourzee. Il aperçut au loin la bande blanche d'une piste de ski et les points noirs des télésièges. De petites voitures munies de pneus à chaîne et de galeries fonçaient sur les routes transformées en couloirs de neige et de glace. Harold frissonna lorsqu'un courant d'air froid pénétra dans la voiture par les vitres arrière. Les deux paires de skis de fond que Maria Chen avait loués le matin à l'hôtel émergeaient de la vitre arrière droite. « Vous croyez qu'on aura besoin de ces foutus machins ?» demanda-t-il en indiquant la banquette arrière d'un mouvement du menton. Maria Chen sourit et leva ses ongles vernis. « Peut-être. » Elle consulta la carte routière Shell, puis une carte topographique. « La prochaine à gauche, » dit-elle. « Ensuite, il reste 6 kilomètres avant le chemin d'accès privé. » La BMW eut quelques difficultés à négocier les 1500 derniers mètres du chemin d'accès, qui n'était guère plus qu'une piste d'ornière creusée dans la neige. « Quelqu'un est passé par là il n'y a pas longtemps, » dit Harold. « C'est encore loin ?»« Plus qu'un kilomètre après le pont. » La route obliqua pour s'engager dans un épais bosquet d'arbres dénudés, puis le pont apparut devant eux. Un petit ouvrage d'art protégé par une barrière apparemment plus solide que celle du poste frontière tchèque. Un petit chalet alpin s'élevait 20 mètres en aval. Deux hommes en sortirent et se dirigèrent lentement vers la voiture. Harold s'attendait à les voir vêtus de costumes typiques, version hivernale, mais ils portaient un pantalon de velours brun et une veste fourrée aux couleurs éclatantes. Le plus jeune, âgé d'une 20aine d'années, était sans doute le fils de l'autre. Il tenait un fusil de chasse au creux de son bras. « Guten Morgen! Haben Sie sich verfahren? » demanda le plus âgé des deux en souriant. « Das hier ist ein Privatgrundstück. » Maria Chen traduisit. « Ils nous souhaitent le bonjour et nous demandent si nous sommes perdus. Ils disent que ceci est une propriété privée. » Harold sourit aux deux hommes. Le plus âgé lui rendit son sourire, montrant ses dents en or. Le plus jeune garda un visage inexpressif. « Nous ne sommes pas perdus, » dit Harold. « Nous sommes venus voir Willy, Herr von Borchert. Il nous a invités ici. Nous sommes venus de Californie exprès pour le voir. » Le vieil homme le regarda sans comprendre, et Maria Chen remplit à nouveau son rôle d'interprète. « Herr von Borchert lebt hier nicht mehr, » dit le vieil homme. « Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das Gut ist schon seit sehr langer Zeit geschlossen. Niemand geht mehr dorthin. » « Il dit que Herr von Borchert est mort, » traduisit Maria Chen. « Depuis plusieurs années, la propriété est fermée. Ça fait très longtemps qu'elle est fermée. Personne ne vient jamais ici. » Harold sourit et secoua la tête. « Alors comment se fait-il que vous montiez la garde, hein ?»«
Warum lassen Sie es nur bewachen ?» demanda Maria Chen.
Le vieil homme sourit.
« Wir werden von der Familie bezahlt, so dass dort kein Vandalismus entsteht.
bald wir alle ein Teil des Nationalwaldes werden. Die alten Häuser werden abgerissen. Bis dahin schickt der Neffe uns Schecks aus Bonn. Und wir halten alle Wilddiebe und Unbefugte fern, so wie es mein Vater vor mir getan hatte. Mein Sohn wird sich andere Arbeit suchen müssen.
La famille nous paye pour empêcher le vandalisme, traduisit Maria Chen.
Bientôt, un de ces jours, cette propriété fera partie du parc national. La maison sera détruite. En attendant, le neveu, celui de Van Borchert, je présume, le neveu nous envoie des chèques de bonne et nous écartons les intrus et les braconniers, comme mon père l'a fait avant moi. Mon fils devra chercher un autre travail.
Ils ne vont pas nous laisser entrer, Tony, ajouta-t-elle. Harold tendit à l'homme trois pages concernant le prochain projet de Willy, traite des blanches. Un billet de 100 marks avait été glissé bien visible entre deux pages.
Dites-lui que nous sommes venus exprès de Hollywood pour faire des repérages. Dites-lui que la vieille maison ferait un merveilleux château hanté.
Maria Chen s'exécuta. Le vieil homme regarda les feuilles de papier et le billet, puis les rendit à Harold d'un geste machinal.
Ja, es wäre eine wunderbare Kulisse für eine große Film. Es besteht kein Zweifel, da es hier spukt. Aber ich glaube, dass es keine weitere Gespenster braucht. Ich schlage vor, dass sie umdrehen, so dass sie hier nicht stecken bleiben.
Grüß Gott.
Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Harold.
Il trouve lui aussi que cette propriété ferait un décor idéal pour un film d'horreur, dit Maria Chen. Il dit qu'elle est effectivement hantée. Il ne pense pas qu'elle ait besoin de nouveaux fantômes. Il nous dit de faire demi-tour ici tant que c'est encore possible et nous souhaite une bonne journée.
Dites-lui d'aller se faire foutre, dit Harold tout en souriant aux deux hommes.
Vielen Dank für Ihre Hilfe, dit Maria Chen.
Bitte sehr, dit le vieil homme.
Il n'y a pas de quoi, dit le jeune homme au fusil.
La BMW reprit la longue allée en sens inverse, tourna à l'ouest pour s'engager sur l'équivalent allemand d'une route de campagne, puis roula 800 mètres avant de s'immobiliser sur la neige à 5 mètres d'une clôture. Harold prit des cisailles dans le coffre et découpa le grillage en 4 endroits. Il acheva d'ouvrir la brèche à coups de botte. On ne risquait guère de la voir de la route en raison des arbres et la circulation était pratiquement inexistante. Harold retourna près de la BMW et troqua ses bottes contre des chaussures de ski au motif comique, puis Maria Chen l'aida à enfiler ses skis. Harold n'avait skié que 2 fois dans sa vie, à Sun Valley, dont une en compagnie d'Anne-Margret et de la nièce de Dino De Laurentiis. Et il avait détesté ça. Maria Chen laissa son sac à main dans la voiture, glissa le Browning dans la ceinture de son pantalon, mit un chargeur de rechange dans la poche de sa veste, se passa une paire de jumelles autour du cou et s'engouffra dans la brèche. Harold se propulsa tant bien que mal derrière elle. Il tomba à 2 reprises durant les 1500 premiers mètres, se relevant chaque fois en faisant fuser un chapelet de jurons sous le regard amusé de Maria Chen. On n'entendait aucun bruit, excepté le bruissement de leurs skis sur la neige, le bavardage occasionnel d'un écureuil et les halètements de Harold. Lorsqu'ils eurent parcouru environ 3 kilomètres, Maria Chen fit halte pour consulter sa boussole et la carte topographique.
« Voilà le ruisseau. Nous pouvons le traverser ici. La maison se trouve dans une clairière à environ 1 kilomètre dans cette direction. »
Elle indiqua une partie de la forêt particulièrement dense.
« Encore 3 terrains de foot !»
pensa Harold en s'efforçant de reprendre son souffle. Il se rappela le fusil de chasse que portait le jeune homme et se rendit compte que le Browning ne serait pas à la hauteur au cours d'un éventuel affrontement. Et pour ce qu'il en savait, Reynolds et Loire, ainsi qu'une 12aine d'autres esclaves, les attendaient dans le bois, armés d'ouzis et de Mac-10. Harold se força à inhaler une bouffée d'air glacé et s'aperçut qu'il avait l'estomac noué.
« Et puis merde » pensa-t-il. Il s'était cassé le cul pour venir jusqu'ici. Il ne repartirait pas avant de savoir si Willy était là.
« Allons-y »
dit-il.
Maria Chen acquiesça, rempocha sa carte et s'avança gracieusement sur ses skis. Il y avait deux cadavres devant la maison. Tapis derrière l'abri précaire d'une rangée d'épicéas, Harod et Maria Chen observèrent les corps à tour de rôle à l'aide des jumelles. À 50 mètres de distance, les deux masses sombres gisant sur la neige auraient pu être n'importe quoi. Des paquets de linge abandonnés, peut-être. Mais les jumelles permettaient de distinguer la courbe d'une joue pâle et des membres figés dans une position qu'un dormeur aurait trouvée pénible. Ces deux-là ne dormaient pas. Harod les examina une nouvelle fois. Deux hommes. Manteau noir, gants de cuir. L'un des cadavres avait porté un feutre brun. Il gisait sur la neige à 2 mètres de lui. La neige était tachée de sang tout autour des deux corps. Une traînée écarlate reliait les empreintes de leurs pas à la grande porte-fenêtre du vieux manoir. 30 mètres plus loin, à l'est, se trouvaient des sillages parallèles, des traces de pas se dirigeant vers la maison ou s'en éloignant, et de larges amas circulaires de neige poudreuse, comme si un immense ventilateur avait été pointé vers le sol. « Un hélicoptère, » pensa Harod. Aucune trace d'automobile, de chasse-neige ou de ski. L'allée qui reliait le bâtiment au chemin d'accès, sur lequel Maria et lui avaient été arrêtés un peu plus tôt, n'était qu'un ruban de neige sinuant entre les arbres. Impossible de voir le chalet et le pont d'où ils étaient. Quoique plus vaste qu'une demeure typique, l'édifice principal ne pouvait cependant prétendre au nom de château. Il s'agissait d'une immense masse de pierres sombres et de fenêtres étroites, formée de plusieurs ailes et de plusieurs niveaux, dans le genre manoir imposant agrandi au fil des générations. La couleur de la pierre et la taille des fenêtres variaient par endroits, mais l'effet d'ensemble demeurait lugubre. Pierres sombres, verres rares, portes étroites, murs épais décorés par des ombres d'arbres dénudés. Harod estima que cette maison reflétait davantage la personnalité de Willy que sa villa de Bel Air.
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Maria Chen. « Fermez-la !»
Harod leva les jumelles pour observer à nouveau les deux cadavres. Ils gisaient tout près l'un de l'autre. Le visage du premier était tourné de l'autre côté, à moitié enfoui dans la neige, si bien que Harod n'en apercevait qu'une touffe de cheveux noirs faiblement agitée par la brise. Mais le second, étendu sur le dos, laissait voir une joue pâle et un œil vitreux fixé sur les arbres, comme dans l'attente de leur arrivée.
« Il n'était pas mort depuis longtemps, » estima Harod.
Apparemment, les petits animaux de la forêt ne s'étaient pas encore intéressés à eux.
« Allons-nous-en, Tony. Fermez votre gueule. »
Harod rabaissa ses jumelles et réfléchit. Il ne voyait pas l'autre côté du manoir de l'endroit où il se trouvait. S'il devait s'approcher de la maison, mieux valait rester dans la forêt et contourner le bâtiment afin de l'examiner sous tous les angles. Les yeux plissés, Harod inspecta la vaste clairière. Le rideau d'arbres se prolongeait des deux côtés de façon plus ou moins régulière. Il leur faudrait une bonne heure pour regagner la forêt et effectuer leur manœuvre d'approche. Le soleil était masqué par les nuages et un vent froid s'était levé. De petits flocons commençaient à tomber. Le blue jean de Harod était trempé de neige fondue et ses jambes lui faisaient atrocement mal. Il n'était pas encore midi, mais la lumière était carrément crépusculaire.
« Allons-nous-en, Tony !»
La voix de Maria Chen n'était ni suppliante ni terrifiée, seulement insistante. « Passez-moi le flingue !» Elle dégagea le pistolet, le lui tendit, et il le pointa sur la maison grise et la masse noire des cadavres.
« Allez là-bas » ordonna-t-il. « Sur vos skis. Je reste ici pour vous couvrir. Je pense que cette foutue maison est vide. »
Maria Chen le regarda. On ne lisait ni interrogation ni défi dans ses yeux noirs, seulement de la curiosité, comme si elle n'avait jamais vu Harod auparavant.
« Allez-y !»
dit sèchement Harold en baissant l'automatique, ne sachant ce qu'il ferait si elle refusait. Maria Chen se retourna, écarta les branches d'épicéa d'un élégant mouvement de bâton de ski et se dirigea vers la maison. Harold s'accroupit et s'éloigna de quelques mètres, s'immobilisant derrière un large érable entouré de jeunes pins. Il leva ses jumelles. Maria Chen était arrivée près des corps. Elle fit halte, enfonça ses deux bâtons dans la neige et se tourna vers la maison. Puis elle jeta un bref regard vers l'endroit où elle avait laissé Harold et se dirigea vers la maison, s'arrêtant un instant devant les portes-fenêtres avant d'obliquer sur la droite pour longer la façade. Elle disparut au coin droit de l'édifice, le plus proche du chemin d'accès. Harold ôta ses skis et s'accroupit sur un coin sec près de l'arbre. Une éternité sembla s'écouler avant son retour. Elle apparut à gauche de la façade, revint se placer devant les portes-fenêtres et agita les bras vers l'endroit où Harold était censé se trouver. Celui-ci attendit encore 2 minutes, puis il se courba et se mit à courir vers la maison. Il avait cru pouvoir se débrouiller sans ski. C'était une erreur. La neige ne lui arrivait qu'aux genoux, mais elle le ralentissait et gênait sa progression. À peine avait-il franchi 3 mètres que la croûte céda sous son poids, l'obligeant à balayer la neige devant lui. Il tomba à 3 reprises, allant jusqu'à lâcher son automatique. Il vérifia que le canon n'était pas bouché, épousseta la crosse et reprit sa course hasardeuse. Il s'arrêta près des corps. Tony Harrod avait produit 28 films, dont 25 avec Willie. Tous faisaient largement appel au sexe et à la violence, et souvent aux deux réunis. Les 5 films de la série « La nuit de Valpurgis », la plus grande réussite commerciale de Harrod, se résumaient plus ou moins à une succession de meurtres dont les victimes étaient le plus souvent des jeunes gens séduisants, surpris en pleine copulation ou juste après. Ces meurtres étaient en majorité filmés à la caméra subjective, du point de vue du meurtrier. Harold avait souvent débarqué sur le plateau de tournage et y avait vu des gens se faire poignarder, tirer dessus, empaler, brûler, éviscérer et décapiter. À force de fréquenter les techniciens des effets spéciaux, il n'ignorait plus rien des mystères des poches de sang, des sacs pneumatiques, des yeux crevés et des pompes hydrauliques. Il avait personnellement écrit la scène de « La nuit de Valpurgis 5 »,« Le cauchemar continu », où la tête de la baby-sitter explosait en 1000 morceaux après qu'elle avait avalé la capsule explosive que Golon, l'assassin masqué, avait substituée à sa pilule. En dépit de tout cela, Tony Harrod n'avait jamais vu de victime d'un vrai meurtre. Les seuls cadavres qu'il avait approchés étaient celui de sa mère et de sa tante Mira, qu'il avait découvert dans des cercueils impeccables au milieu des parents éplorés rassemblés dans une chapelle ardente. Harold avait 9 ans le jour des funérailles de sa mère, 13 le jour de celle de tante Mira. Personne ne faisait jamais allusion à la mort du père de Harold. Un des 2 hommes gisant devant la demeure familiale de Willie Borden avait reçu 5 ou 6 balles dans le corps. Le second avait la gorge arrachée. Tous 2 avaient copieusement saigné. La quantité de sang parut absurde à Harold, comme si un metteur en scène trop zélé avait déversé des baquets de peinture rouge sur le plateau. Rien qu'en jetant un coup d'œil au corps, au sang et aux traces de pas, Harold pensa pouvoir reconstituer la scène. Un hélicoptère s'était posé à une 30aine de mètres de la maison. Ces 2-là en étaient descendus, chaussés de souliers vernis, et s'étaient dirigés vers les portes-fenêtres. Ils avaient commencé à s'affronter ici, sur les dalles. Harold vit en esprit le plus petit, celui qui gisait face contre terre, bondir soudain sur son équipier toute griffe dehors. Le plus grand des 2 hommes avait battu en retraite. Harold distingua des empreintes de talons dans la neige, puis il avait brandi son lugeur et tiré plusieurs coups de feu. Le petit homme avait continué d'avancer, peut-être même après avoir été touché au visage. Il avait 2 impacts de balles sur la joue droite,
Un bout de muscle et de chair était coincé entre ses mâchoires. Le plus grand avait fait quelques pas hésitants après avoir abattu son équipier, puis, comme s'il venait de prendre conscience qu'on lui avait déchiré la gorge, que son sang jaillissait dans l'air glacé, que son larynx était déchiqueté, il était tombé, avait roulé sur lui-même et était mort les yeux fixés sur les conifères, au milieu desquels Harod et Maria Chen devaient apparaître quelques heures plus tard. Son bras était à moitié levé, sculpté par la rigidité cadavérique. Harod savait que celle-ci se manifestait un certain temps après la mort, et durait quelques heures. Il ne se rappelait pas combien. Il s'en fichait. Il avait supposé que les deux hommes étaient des équipiers, qu'ils étaient descendus ensemble de l'hélicoptère, qu'ils étaient morts ensemble. Les traces de pas ne le prouvaient pas de façon absolue. Harod s'en fichait. À en juger par d'autres traces de pas allant des portes-fenêtres au point d'atterrissage, plusieurs personnes étaient sorties de la maison pour partir à bord de l'hélicoptère. Il était impossible de déduire d'où était venu l'appareil, qui le pilotait, qui y était monté et quelle était sa destination. Harod s'en fichait. « Tony ?» demanda doucement Maria Chen. « Un instant. » Harod se retourna, s'éloigna en titubant de la flaque de sang et vomit dans la neige. Il se pencha, goûtant une nouvelle fois au café et à la saucisse qu'il avait pris au petit-déjeuner. Lorsqu'il eut fini, il ramassa une poignée de neige propre, se rinça la bouche, se redressa, et faisant un large détour pour éviter les cadavres, rejoignit Maria Chen sur les dalles.
« La porte n'est pas fermée !»
murmura-t-elle. Harod ne distinguait que des rideaux derrière les vitres. La neige tombait drue à présent, et les flocons occultaient les arbres à 50 mètres de distance. Harod hocha la tête et inspira. « Allez récupérer le flingue de Stipe, » dit-il, « et trouvez-moi leurs papiers. » Maria Chen regarda Harod pendant une seconde, puis elle se dirigea vers les cadavres. Elle dut écarter les doigts du plus grand des deux pour saisir son pistolet. Ses papiers étaient rangés dans son portefeuille. L'autre avait son passeport, ainsi qu'une liasse de billets dans la poche de son manteau. Maria Chen dut faire rouler les cadavres dans la neige avant de trouver ce que Harod lui avait demandé. Lorsqu'elle revint près de lui, son pull rose et sa veste étaient tachés de sang. Elle ôta ses skis d'un geste vif et passa de la neige sur ses vêtements. Harod examina son butin. Le grand se nommait Frankly, ainsi que l'attestait son permis de conduire international, son adresse temporaire à Munich et son permis de conduire américain vieux de 3 ans. L'autre se nommait Ellis Robert Sloan, 32 ans, demeurant à New York, possesseur d'un passeport visé pour l'Allemagne fédérale, l'Autriche et la Belgique. Et il avait sur lui $800 et 600 marques. Harod secoua la tête et laissa tomber argent et papier sur les dalles. Son butin ne lui avait rien appris d'important. Il savait qu'il temporisait, qu'il retardait l'instant où il allait falloir pénétrer dans la maison. « Suivez-moi, » dit-il. Et il entra. La maison était vaste, froide, sombre, et, du moins Harod l'espérait-il avec ferveur, vide. Il n'avait plus envie de parler à Willy. Il savait que s'il voyait son vieux mentor hollywoodien, sa première réaction serait de lui vider le chargeur du Browning dans la tête. Si Willy le laissait faire. Tony Harod ne se faisait plus aucune illusion sur son propre talent comparé à celui de Willy. Peut-être avait-il affirmé à Barent et aux autres que le pouvoir de Willy était sur le déclin, et peut-être l'avait-il cru en partie, mais il savait au fond de ses tripes que, même affaibli, Willy Borden était capable de maîtriser mentalement Tony Harod en 10 secondes. Ce vieux salopard était un monstre. Harod se prit à regretter d'être venu en Allemagne, d'avoir quitté la Californie, d'avoir permis à Barent et à sa clique de l'obliger à s'associer à Willy. « Tenez-vous prête !» murmura-t-il d'une voix stupidement tendue, et il précéda Maria Chen dans les profondeurs de la masse de pierres sombres. Les meubles étaient recouverts de draps blancs dans toutes les pièces,
Harod avait déjà vu des scènes identiques au cinéma, tout comme il y avait déjà vu des cadavres. Mais l'effet produit était beaucoup plus troublant dans la réalité. Il se surprit à braquer son automatique sur chaque chaise et chaque lampe, s'attendant à voir les meubles se dresser et foncer sur lui comme la silhouette drapée de blanc dans le premier Halloween de Carpenter. L'entrée principale était immense, carrelée en noir et blanc, et vide. Harod et Maria Chen avançaient à pas de loup, mais l'écho de leurs pas était néanmoins perceptible. Harod se sentit ridicule de marcher dans une maison avec ses chaussures de ski. Maria Chen le suivait calmement, le lugeur ensanglanté pendant au bout de son bras. Elle semblait détendue, comme si elle fouillait la maison hollywoodienne de Harod en quête d'un magazine égaré. Un quart d'heure s'écoula avant que Harod acquiert la certitude que le rez-de-chaussée et l'immense cave étaient également vides. La monumentale maison semblait abandonnée. S'il n'y avait pas eu les cadavres dehors, Harod aurait été persuadé que personne n'était entré ici depuis plusieurs années.
« On monte !» dit-il, l'automatique toujours levée.
Ses phalanges étaient blêmes. L'aile ouest était sombre, froide et dépourvue de tout ameublement, mais lorsqu'ils entrèrent dans le couloir conduisant à l'aile est, Harod et Maria Chen se figèrent. Le passage leur parut tout d'abord bloqué par un immense rideau de glace ondoyante. Harod repensa à la scène où Jivago et Lara retournent dans la maison de campagne ravagée par l'hiver. Mais Harod s'avança prudemment et découvrit que la faible lumière se reflétait sur un mince rideau de plastique translucide accroché au plafond et fixé le long d'un mur. 2 mètres plus loin, ils découvrirent un rideau identique. Ils avaient été installés pour assurer l'isolation thermique de l'aile est. Le couloir était sombre, mais une lueur pâle se glissait par plusieurs portes ouvertes le long de ses 15 mètres. Harod adressa un hochement de tête à Maria Chen, puis s'avança avec souplesse, tenant l'automatique des 2 mains, les jambes écartées. Il pivota sur lui-même devant chaque porte, prêt à tirer, en alerte, tendu comme un chat à l'affût. Des images de Clint Eastwood et de Charles Bronson dansaient dans sa tête. Maria Chen resta près du rideau en plastique et le regarda faire.
« Merde !»
lâcha Harod au bout de 10 minutes. On aurait dit qu'il était déçu. Et compte tenu du flot d'adrénaline qui avait parcouru son organisme quelques minutes plus tôt, il était effectivement un peu déçu. À moins qu'il n'existât des pièces secrètes, la maison était vide. 4 des pièces donnant sur ce couloir semblaient avoir été récemment occupées. Lit défait, réfrigérateur garni, vaisselle, papier sur les bureaux. En examinant l'une d'elles, un immense bureau pourvu d'étagères, d'un vieux canapé et d'une cheminée aux cendres encore chaudes, Harod pensa qu'il avait raté Willy de quelques heures à peine. Peut-être étaient-ce les visiteurs descendus d'hélicoptère qui l'avait obligé à partir à l'improviste. Mais il ne restait ni vêtements ni objets personnels. L'occupant des lieux s'était tenu prêt à partir. Dans le bureau, près d'une étroite fenêtre, un échiquier était posé sur une table basse, ses pièces ouvragées déployées pour une partie en cours. Harod alla jusqu'au secrétaire et dispersa du bout de son automatique les quelques papiers qui y traînaient. L'adrénaline désertait son organisme, remplacé par un souffle court, des tremblements de plus en plus accentués et une envie dévorante d'être ailleurs. Les papiers étaient en allemand. Harod ne parlait pas cette langue, mais il eut l'impression qu'il se rapportait à des problèmes banals, taxes foncières, rapports d'exploitation agricole, débits et crédits. Il les jeta à terre, ouvrit quelques tiroirs vides, et décida que le moment était venu de décamper.
« Tony !»
En entendant la voix de Maria Chen, il fit volte-face, le Browning levé. Elle était près de l'échiquier. Harod s'approcha, pensant qu'elle avait vu quelque chose par la fenêtre, mais c'était le grand échiquier qu'elle regardait. Harod fit de même. Au bout d'une minute, il baissa son arme,
se mit à genoux et murmura
« Bon Dieu de merde !»
Harrod ne connaissait pas grand-chose aux échecs, n'y avait joué qu'en de rares occasions durant son enfance, mais il vit que la partie en cours sur cet échiquier était dans ses premières phases. Seules quelques pièces, deux noires et une blanche, avaient été perdues et posées sur la table. Harrod s'approcha un peu plus, toujours à genoux, jusqu'à ce que ses yeux ne soient qu'à quelques centimètres des pièces les plus proches. Les pièces étaient en ivoire et en ébène sculptée. Délicatement ouvragées, elles mesuraient une douzaine de centimètres de haut et avaient dû coûter une fortune à Willy. Le maigre savoir de Harrod en matière d'échecs lui permit de déduire que la partie en cours n'était guère orthodoxe. Le gamin qu'il avait battu lors de sa seconde et dernière partie, 30 ans auparavant, avait éclaté de rire lorsque Harrod avait déplacé sa reine en début de partie. Il avait prétendu que seuls les amateurs utilisaient leur reine si tôt dans le jeu. Mais ici, de toute évidence, les deux reines avaient déjà été jouées. La reine blanche se trouvait au centre de l'échiquier, juste devant un pion blanc. La reine noire avait quitté le jeu et reposait à côté de l'échiquier. Harrod se pencha un peu plus. Le visage d'ébène était élégant, aristocratique, toujours séduisant en dépit de ses rides méticuleusement gravées. Harrod avait vu ce visage 5 jours plus tôt à Washington, D.C., lorsque C. Arnold Barrent lui avait montré une photo de la vieille dame qui s'était fait abattre à Charleston et avait eu l'imprudence de laisser traîner son album macabre dans sa chambre d'hôtel. Tony Harrod avait devant lui Nina Drayton. Harrod s'empressa d'examiner toutes les pièces. Il ne reconnut pas la plupart des visages, mais certains lui sautèrent aux yeux, comme s'il avait utilisé un zoom, ainsi qu'il aimait le faire dans ses films. Le roi blanc n'était autre que Willy. Cela ne faisait aucun doute, bien que son visage fût plus jeune, ses traits plus anguleux, ses cheveux plus abondants, et qu'il portât un uniforme à présent illégal en Allemagne. Le roi noir était C. Arnold Barrent, costume 3 pièces et tout. Harrod reconnut Charles C. Colben dans Le Fou Noir. Le fou blanc n'était autre que le révérend Jimmy Wayne Sutter. Kepler était en place dans la rangée des pions noirs, mais le cavalier noir s'était avancé pour se lancer dans la bataille. Harrod le fit tourner de quelques degrés et reconnut les traits pincés de Niemann Trask. Harrod ne reconnut pas le visage âgé et bouleau de la reine blanche, mais il devina facilement son identité. « Nous la retrouverons, » avait dit C. Arnold Barrent. « Ensuite, il faudra nous tuer cette emmerdeuse. » La reine blanche était bien engagée dans le camp des Noirs, ainsi que 2 pions blancs. Harrod ne reconnut pas celui qui semblait entouré de toutes parts par des pions noirs. On aurait dit un homme âgé de 50 ou 60 ans, avec une barbe et des lunettes. En détaillant son visage, Harrod pensa « juif ». Mais l'autre pion blanc, celui qui se trouvait 4 cases devant le cavalier de Willy, apparemment exposé aux attaques simultanées de plusieurs pièces noires, ce pion, il le retourna et n'eut aucune peine à l'identifier. Tony Harrod avait devant lui son propre visage.
« Bordel !»
Les échos de son cri résonnèrent dans l'immense maison. Il se remit à hurler et balaya l'échiquier avec le canon de son Browning, 1 fois, 2 fois, 3 fois, dispersant les pièces d'ébène et d'ivoire sur le sol. Maria Chen recula et se tourna vers la fenêtre. Au dehors, la lumière semblait avoir fui sous la pression des nuages. La forêt n'était plus qu'un banc de brume grise, et la neige recouvrait les 2 cadavres, gisant comme des pièces d'échecs sur la pelouse du manoir.